Le bruit, c'est une vibration de l'air, ou alors c'est selon la sensibilité qu'on a de cette vibration. C'est le bruit extérieur, le bruit des vagues, le bruit de la pluie, le bruit du vent. Mais c'est aussi souvent, contrairement au son, ce qui dépasse de quelques décibels pour que ce soit acceptable. Je pense au bruit nuisance, le bruit du téléphone, du bip, du buzz, le bruit indésirable de la circulation, de l'urgence, le bruit des gens, des enfants, des voisins, des passants, le bruit de la ville qui nous casse les oreilles mais qui nous rappelle aussi, étrangement, à tout moment, qu'on est vivant. Celui qui empêche de dormir, littéralement. Les sirènes, les klaxons, les avions, les sons qui nous tombent dessus, qui vont des mots qui ne sont pas adressés à la musique des autres, celle qu'on n'a pas choisie mais qui surgit, toujours un peu trop fort. Le bruit du monde, celui qui est interdit, paraît-il, entre 22h et 7h du matin. Celui qu'on appelle tapage et qui est prohibé aussi toute la journée s'il est trop répétitif, trop intense, trop long. Le bruit de la dispute, de la discorde, de la colère, celui des violences perpétuelles qui ont ceci d'intéressant qu'elles ne s'éteignent jamais vraiment. Ce bruit qui s'écrit, ou plutôt qui se crie en majuscule sur les réseaux sociaux et même dans la vraie vie, il résonne encore longtemps. Après qu'on a refermé son écran, il déborde, il dépasse, il prend toute la place. Le bruit dans nos têtes, celui qu'on comprend pas, qui n'est pas de la parole, qui n'est pas de la musique, mais qui est là. Le bruit de fond, comment on y répond ?
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel bruit remplissent la tête de mon invité d'aujourd'hui. Ça fait maintenant près de 20 ans que ces mots, son flow, son approche si singulière de la musique, son indépendance surtout, bousculent autant le milieu très codifié du rap que les sphères privilégiées en tout genre. Vous l'avez peut-être vu sur scène, aux côtés de Virginie Despentes et de Béatrice Dalle. Elle est actuellement en tournée dans toute la France avec son groupe House Gang pour faire entendre leur dernier album Gangrène, sorti à la veille de la pandémie. Et ça fait du bruit. Bonjour Kazé.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci de l'invitation.
Qu'est-ce qui fait un peu trop de bruit pour vous, justement, en ce moment ?
Ce qui fait un peu trop de bruit, c'est la bêtise. Voilà, la bêtise est bruyante en ce moment.
Et ce bruit, justement, de la bêtise incessant, comment on fait, ne serait-ce que pour passer outre, en fait ?
Selon le moment ou selon l'humeur. Il y a des humeurs, il y a des moments où on arrive à en rire. Il y a des moments où ça met plus en colère que d'autres, ça indigne. Il y a des moments où ça fatigue.
Ça veut dire qu'on peut répondre au bruit par le bruit, Kazé ?
Aussi, mais aussi par le silence. C'est-à-dire qu'il y a des bruits, on n'a rien à leur rétorquer si ce n'est le silence.
C'est une vraie question. Dans tout ce bruit, comment on se fait entendre, en fait ?
Des fois, c'est pas nécessaire de se faire entendre, en fait, puisque là, c'est la concurrence pour se faire entendre, justement. Des fois, il faut savoir se taire.
Vous avez l'impression qu'on vous entend, vous ?
Quelques personnes m'entendent, d'autres non, d'autres ne me connaissent pas, d'autres s'en fichent et c'est très bien. Je me pose pas la question de savoir. Je fais et je vois, mais si on m'entend, c'est beaucoup mieux. Ouais.
Après toutes ces années, qu'est-ce qui vous donne encore et toujours l'envie de faire du bruit, l'envie en tout cas d'exprimer souvent votre colère ?
Je sais pas si c'est de la colère. C'est souvent perçu comme de la colère, mais j'ai l'impression de plus d'avoir des opinions affirmées qu'être indigné ou en colère. Mais par contre, c'est perçu comme de la colère.
À quoi on s'expose ? On se fait disqualifier ?
Ça peut être disqualifiant, c'est-à-dire que si on a une opinion ferme et affirmée, me concernant, ça peut être sur qu'est-ce que c'est que la vie en quartier, qu'est-ce que c'est qu'être noir, qu'est-ce que c'est que l'expérience d'être noir et comment la raconter, on peut être disqualifié, c'est-à-dire qu'on peut nous affubler le titre de victime, de gêneur, les gens qui se plaignent, ou alors tout simplement de complètement déraisonnable, déraisonné, passionné, passionnel, en tout cas rien rationnel, tout est immature et infantile. C'est comme ça qu'on disqualifie le discours, parfois.
Il vous arrive, Kazé, d'avoir le sentiment que ce qu'on attend de vous, c'est justement d'être discrète, de ne pas parler trop fort, de vous fondre dans le décor.
Déjà, j'ai pas l'impression qu'on attend quelque chose de moi, donc du coup, c'est plutôt confortable. Mais oui, y a, je pense que pas mal de gens ont ce sentiment de devoir se faire discret.
Et oui, c'est le thème d'un des titres de votre nouveau disque qui s'appelle « Bonne conduite ».
Oui. Ouais, bonne conduite, c'est un peu ça. Bonne conduite, c'est pas tellement le fait de se faire discret, c'est le fait d'être dans une norme, c'est-à-dire de répondre à certaines attentes implicites.
De marcher droit, en fait.
De marcher droit, à savoir de pouvoir exister, mais sans déranger l'ordre établi, en fait.
Et quand est-ce que vous l'avez compris, ça, justement, qu'on attendait de vous un certain type de conduite, une certaine norme de comportement ?
Bah, assez jeune, en fait. C'est-à-dire que si on suit la voie toute tracée, à savoir prendre les coups sans rétorquer, a priori tout se passe bien en France.
C'est lié à quoi en fait ?
plein pas mal de raisons historiques, culturelles et sociales.
Oui, c'est là-dessus que je voulais vous emmener aux fantômes à certains fantômes du passé, à certains systèmes de pensée aussi.
Bien sûr. Ouais, je pense que c'est un mélange de plein de paramètres qui sont des vieux résidus coloniaux, une certaine forme de domination économique, sociale. Bon, il y a plein de paramètres.
Mais alors Cazet, dans quelle mesure est-ce que faire de la musique ça n'a de sens en fait que si on dérange, si on bouscule justement pour vous?
Pour moi, ça n'a pas nécessairement ce sens-là. C'est comme ça que je le fais. Je peux comprendre qu'on puisse faire de la musique autrement. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, oui, c'est de raconter une expérience. Voilà. Je trouve qu'à partir d'une expérience, on peut être universel. L'expérience de ce que je porte, de qui je suis, d'où je viens et de ce que je représente, je trouve qu'elle est racontable.
Au risque, et c'est tant mieux, de créer de l'inconfort chez certains, de mettre mal à l'aise.
Tant mieux, parce qu'à partir du malaise, on peut réfléchir.
On va se mettre à l'aise tout de suite, si vous le voulez bien alors, et entrer un peu dans le vif, le son et la voix de Cazet pour celles et ceux qui ne sauraient pas encore. C'est d'abord ça.
Je fais peur et trembler les médias rassemblés. Je suis capable du pire, coupable dans les Midlords. Je méfie quand on m'aborde et ne méfie qu'à ma horde. On m'a ordonné de perdre, mais j'ai choisi mort. Vu qu'on m'accorde l'échec ou l'accord, les Midlords. Je méfie quand on m'aborde.
C'est ça aussi.
Mon mode de vie n'est pas à vendre. Mon rap n'est pas à vendre. Ce que je pense ou dis n'est pas à vendre.
Si tu crois que ça va changer, tu peux attendre.
Mon mode c'est ça aussi.
Chez moi, j'y vais par période. C'est une toute petite partie du globe. Tu verras du madras sur les draps, les robes. Et puis sur la table, du crabe, du shrub chez moi.
Puis ce morceau, extrait de votre dernier album Gangrène, qui s'appelle Apprends à te taire.
J'en ai marre et tu me tapes sur les nerfs. Alors apprends à écrire, s'te plaît. Y'a pas le dictionnaire. Allez, apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à taire. Un auditeur déçu peut vite faire un tortionnaire. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à taire. Tu mériterais vraiment qu'on te sectionne une artère. Alors apprends à écrire, s'te plaît, ou apprends à taire.
Oui. Apprends à écrire ou apprends à te taire. Elle s'adresse à qui et à quoi cette chanson Cazet?
Oh, c'est rien, c'est une petite pichenette, un tac dans la surface, c'est pas méchant, ça se pratique dans le rap.
Mais voilà. Dans la surface de quoi?
Dans la surface du rap, dans ce qu'on appelle le rap game. De temps en temps, entre rappeurs, on aime bien se mettre des petits coups de genoux, mais j'en ai autant pour le rock. Hein.
J'ai
un morceau dans l'album Gangrène qui s'appelle Bâtard, et celui-là, il est adressé aux rockers.
Oui, à propos de certains Français qui font du rock en chantant en anglais et qui échappent pas à la posture, en fait.
Exactement.
Jamais vous ne vous êtes prise pour quelqu'un d'autre, vous?
Sûrement, j'ai dû faire ça, surtout à l'adolescence. Ouais.
Parce que votre réflexion sur le rap et le rock, elle est passionnante, Cazet, en l'occurrence. En quoi, selon vous, le milieu du rock, au même titre que celui du rap, n'échappe pas à certains stéréotypes, à certains clichés?
Bah, je pense qu'on est tous des stéréotypes. Les journalistes sont des stéréotypes, les avocats sont des stéréotypes. Les seuls stéréotypes qu'on est en capacité de voir, c'est souvent le stéréotype du rappeur.
C'est ça.
C'est ce que je comprends pas en France. C'est-à-dire que, à chaque fois, je suis confronté à des gens qui connaissent pas le rap, ils me disent toujours la même chose. Oui, mais les chaînes en or, les filles toutes nues, les grosses voitures, mais le rock, les jeans déchirés, les danseurs, ouais. Je sais pas, tout le monde est un stéréotype.
Et de façon assez intéressante, ce discours critique sur le rock, c'est pas un discours qu'on entend souvent.
Mais parce que la France est un pays culturellement, moins maintenant, puisque ça y est, le rap a pris le dessus. Le rap, je vous l'annonce à tous, auditeurs, auditrices, le rap a gagné, on a gagné.
Oui.
Mais culturellement, c'est un pays rock qui a très longtemps cru que c'était la seule musique qui avait voix au chapitre.
C'est ça, c'est comme si c'était la musique qui était considérée comme légitime aujourd'hui, qui était validée par les élites aussi.
Exactement, et c'est la seule musique aussi qui est épargnée par toutes les critiques, parce que le rock ne dit plus grand-chose, mais ça ne dérange personne. Par contre, le rap, qu'est-ce qu'il prend? On a plein de critiques à adresser au rap, sur son texte, sur sa forme,
sa violence aussi.
Sur sa violence, mais j'essaye de comprendre où est le rock. Que dit le rock aujourd'hui?
N'empêche, à travers ce titre, Apprends à te taire, vous posez une question qui est peut-être une de mes questions favorites dans cette émission, et rien que pour ça, je vous dis merci. Au fond, qu'est-ce que c'est un bon texte de chanson? Ça tire à quoi pour vous?
C'est quelque chose qui a l'air un tant soit peu authentique, en phase avec celui qui le fait.
Et celui qui l'écoute, c'est à vous entendre quelque chose qui vous touche, vous, en fait.
Ouais, qui me touche, moi. Après, on n'a pas la même définition d'un bon texte. Ici, on est dans un pays de littérature, où la littérature, il y a une forme de hiérarchie, où la musique sera en dessous de la littérature, ce qui est triste et dommage. Mais je trouve que dans le rap, il y a une forme de littérature qui échappe à beaucoup, mais qui est très intéressante.
Une forme de poésie sonore.
Ouais, exactement. évidemment, mais qui échappe à beaucoup parce que, a priori, les seules musiques qu'on voit au chapitre, ce seraient les textes de chansonniers et autres, puisque c'est la culture française. Sauf que la France n'est pas faite que de culture typiquement française.
On va y revenir, évidemment, parce que c'est central dans votre musique. Mmh. Mais les mots, Kazé, qu'est-ce qu'ils peuvent, en fait? Quel est leur pouvoir?
Je pense que les mots peuvent tout, de manière symbolique. Ils peuvent tout. Par exemple, quand on accuse les mots de violence, certes, mais c'est de la violence symbolique. Mes mots n'ont jamais frappé ni tué personne.
Poser des mots, ça a commencé comment, pour vous?
Ça a commencé à 12-13 ans, par l'ennui. Parce que, avec un de mes cousins, on s'ennuyait. Parce qu'à ce moment-là, le rap arrive, quand j'ai 12-13 ans, le rap en français, en tout cas. Et là, on commence à en écouter.
Et avec quel rap est-ce que vous avez grandi, justement?
Moi, j'ai commencé à écouter, il y avait du Public Enemy, surtout du rap américain, Public Enemy, Run-DMC. Et puis après, plus tard, plein d'autres groupes, mais c'est vraiment les premiers que j'ai écoutés. Et puis en France, il n'y avait pas 15 groupes, hein. Ouais. Il y avait NTM, MC Solar, Assassin, Les Little, plein de groupes.
Et d'un point de vue musical, de quoi est-ce qu'il était fait ce rap à l'époque? De quels sons, de quels instruments, de quelles productions?
Alors, le rap a beaucoup évolué en fonction de la technologie et des machines. À cette époque-là, je pense, les premiers disques que j'écoutais, il n'y avait pas, c'est les débuts du sampler. Donc, c'est beaucoup d'accumulation de samples et d'échantillonnage avec des breakbeats, notamment les Funky Drummers de James Brown. Et ensuite, les gens commencent à composer parce que ça se démocratise, parce que les pauvres peuvent commencer à s'acheter du matériel. Parce que sachez que dans le rap, personne n'a de matos. Et au début, quand je commence, celui qui a une platine, qui a un micro ou qui a une mixette, on le recherche dans toute la région, voire dans toute l'Île-de-France.
Maras a mis dans la musique sa dignité de peur qu'on lui prenne. A fait du blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine. C'est ce que vous écrivez dans le morceau de Chuck Berry qu'on va écouter tout à l'heure, Kazé. Ça m'évoque une question, dans quelle mesure faire de la musique, c'est aussi pour vous une façon de garder forme humaine?
C'est de la survie. Moi, je sais que moi, je suis de la Martinique. Les Martiniquais sont des descendants d'esclaves. Et on sait la part que les arts, et notamment la musique, a eu dans le fait de résister, de tenir debout. Donc la musique, vraiment, que ce soit le jazz, que ce soit le reggae, qui est une musique de résistance, que ce soit chez nous à la Martinique, le Belay, à la Guadeloupe, le Groca, ont été des musiques de résistance et de survie. C'est comme ça que les gens sont restés vivants.
Des musiques qui sont liées aussi à la volonté de peuple de rester digne.
Exactement. Par exemple, les esclaves, après leur journée de travail, jouaient, dansaient, jouaient et jouaient de la musique.
Vous parlez du rap, du blues, du jazz, du reggae. Pour le rock'n'roll, c'est pareil?
Parce que le rock est né dans un champ de coton, lui aussi. Voilà. Le rock, c'est Chuck Berry, c'est aussi Jimi Hendrix. Ce sont des Noirs qui ont connu la ségrégation.
Ce qu'on oublie toujours de rappeler, le rap et le rock sont comme les deux branches d'un même arbre.
Exactement. C'est même racine.
Et pourtant, effectivement, ces musiques, on en parlait tout à l'heure, on a parfois tendance à les opposer. Cette tension, qu'est-ce qu'elle raconte pour vous?
Je sais pas, ce clivage-là, je le vois pas partout. Mais en France, je trouve qu'il est très marqué. En France, le rock, c'est censé être très blanc. Et le rap, c'est censé être tous les autres. Voilà. Donc c'est assez particulier, puisqu'il y a des zones qui existent où il y a des groupes de fusion, ou des groupes de métal, ou d'autres qui sont aussi noirs, qui sont aussi, je sais pas, brésiliens, je pense à Sepultura. Il se passe plein d'autres choses, mais je sais pas pourquoi ici c'est autant marqué.
C'est aussi à cette catégorisation que vous répondez quand vous faites de la musique, vous?
Ouais, bien sûr. Ce qui est important, c'est d'essayer de trouver une place qui soit autre, pas d'être assigné à une place, de trouver sa place, de prendre sa place en fonction de qui on est.
Et ça, à quel prix, cette liberté-là?
Ça, le prix de sûrement de ne pas m'asseoir sur le canapé de Michel Drucker, peut-être un truc comme ça.
Vous savez que c'est pire, là. Vous êtes dans Boomerang. C'est encore pire que Drucker.
Un truc comme ça.
On va reparler évidemment de rock et de rap juste après Chuck Berry, extrait de l'album Gangrène de votre groupe House Gang. Vous êtes sur France Inter avec Kazé. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Qui portait les chaînes. Il faut faire ça dans la rock attitude de toute la bourgeoisie parisienne. Moi j'aime le clean, le blanc de mes pompes, le bleu de mon jean, c'est de l'hygiène. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Paraître pauvre, c'est un caprice, un privilège que les riches aiment. Marathon dans la musique, sa dignité, de peur qu'on lui prenne. A fait du blues, du jazz, du reggae, du rap pour lutter et garder forme humaine. Et l'Occident, qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Et l'Occident, qui avait honte à inventer le punk, c'est à lui-même. Tu as le cuir, la coupe, les clopes, les bottes et la Fender. Les anecdotes, les enfants du rock, la collection des vinyles de ton père. Je l'ai dans la chair, je l'ai dans les veines. Qu'est-ce que tu crois, cette histoire est la mienne? Moi je l'ai dans la chair et je l'ai dans les veines. Et puis qu'est-ce que tu crois, cette histoire est la mienne?
Bah, elle a l'autorité naturelle, vous savez, cette façon d'imposer quelque chose sans même dire un mot. Ses mots, elle les pèse, elle prend son temps avec son regard doux, son sourire franc. En chemise à carreaux, ce matin, avec son casque vissé presque sur les oreilles, la musicienne Kazeh, invitée de Boomerang, pour revenir sur une œuvre à la fois politique mais aussi forcément intime. Dans Chuck Berry, vous parlez de vous comme d'une anomalie du 93 avec une gueule caribéenne. Quand, pour la première fois, est-ce que vous êtes senti perçu comme une anomalie?
Bah moi c'est très tôt puisque je suis ni vraiment une meuf ni vraiment un gars, donc je suis entre les deux, ou plutôt plus d'un côté, donc je suis déjà une anomalie dans mon propre milieu, voilà, c'est-à-dire parmi ceux qui sont censés être mes semblables, si tant est que ça veuille dire quelque chose. Et ensuite, en tant que venant d'un quartier, en tant que noir, des fois on arrive à être des anomalies dans certains endroits, par exemple quand je traverse ici pour venir à la maison de la radio, on n'est pas nombreux.
Ce département du 93, vous parlez des quartiers, vous ne l'avez jamais quitté. Kazeh, quel regard est-ce que vous portez sur la manière dont il est présenté et représenté encore aujourd'hui?
Ah, c'est particulier le 93, c'est-à-dire que le 93, c'est comme si c'était le cauchemar français. Voilà, c'est-à-dire que le 93 stigmatise tellement de fantasmes délirants que le 93, on peut même venir du 78, porter une casquette et avoir une barre, mais on pense qu'on est du 93. C'est-à-dire que le 93, en soi, c'est la symbolique de tout ce qui est quartier noir, arabe, ghetto, c'est le 93. On n'a même pas besoin de venir du 93 pour être du 93.
Et ce cliché aux allures de fantasme, vous avez raison, vous l'avez vu évoluer, c'est quand même très longtemps que vous êtes sur la scène maintenant, Kazeh.
Ah bah là, ça évolue et ça change. Alors là, le 93 maintenant commence à devenir une forme d'Eldorado. Le 93 se gentrifie. Maintenant, ça devient sympa. En tout cas, aux abords du 93. Montreuil, les Lilas, tout ça commence à être sympa.
Et comment vous le vivez, justement, cette gentrification?
Bah il y a une forme de violence. Pas la violence, en fait, c'est que les gens qui peuvent venir, des fois dans le 93, veulent juste annuler l'histoire du 93. C'est-à-dire qu'il y a toute une histoire de pauvreté et d'immigration.
De lutte aussi.
Et de lutte. Et c'est comme si les nouveaux habitants n'avaient de cesse que d'attendre qu'un Starbucks vienne s'installer, un Picard et un Franprix pour pouvoir commencer une vie sympa.
Vous dites parfois, Kazeh, que vous êtes un pur produit du Bumidum. Et je pense que c'est important de rappeler aux auditeurs et aux auditrices ce qu'a été le Bumidum, parce que c'est un épisode de notre histoire collective dont on parle somme toute assez peu.
Le Bumidum, c'est suite à des révoltes sociales à la Martinique, fin des années 60. On a offert aux Martiniquais, c'était un cadeau empoisonné, de leur offrir un billet pour venir en France travailler. Mais c'était un billet, le billet était un aller simple. Et comme ça, on a un peu vidé la Martinique et la Guadeloupe de sa jeunesse, donc de ses possibles éventuelles révoltes.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on leur promettait un rêve, un métier,
une
réussite sociale.
Oui, donc un métier, souvent c'était à la poste ou à l'hôpital. Voilà pourquoi il y a autant d'Antillais à la poste ou à l'hôpital.
Être un pur produit du Bumidum, un enfant du Bumidum, comme vous dites, ça veut dire quoi?
ça veut dire porter cette histoire, en fait. C'est savoir que cette immigration, elle s'est pas faite comme ça, quasi volontairement, sur un coup de tête, que ça a été quasiment pensé au sommet de l'État.
Alors c'est passionnant, effectivement, cette histoire dit beaucoup de la relation ambiguë de la France métropolitaine vis-à-vis de ce qu'on désigne administrativement comme les territoires d'outre-mer. Alors je sais que c'est un mot territoire qui vous interroge.
Oui, parce que c'est particulier, même la façon dont on a de parler des outre-mer, c'est-à-dire que les outre-mer sont des territoires. Bon, on peut le dire comme ça, on peut aussi se dire que ce sont des colonies. Voilà, on peut aussi se dire ça.
Vous y pensez tout le temps à la sémantique, après tout vous écrivez?
Oui, par exemple quand ça m'est arrivé cet été de me balader et de m'acheter une glace qui était à la vanille française. Donc j'ai demandé où étaient ces arbres à vanille en France.
Je pense tout de suite à un titre dont on a passé tout à l'heure un extrait qui s'appelle « Chez moi », où vous parlez de la Martinique, où est retournée vivre votre mère, je crois, et où vous le dites, les cocotiers cachent la misère. Ces inégalités très fortes qui persistent dans ces lieux qui sont la France, qu'est-ce que ça nous raconte?
Ça raconte cette histoire, en fait, cette histoire d'esclavage pas purgé, cette caste de béquets dont très peu sont informés ici en France, c'est-à-dire que sont les béquets, sont les descendants, c'est encore des descendants de la monarchie française, qui possèdent à peu près 95% des terres et du foncier en Martinique, en Guadeloupe, et qui sont une petite casques qui entretiennent leur pouvoir sur des bases ethniques.
Pouvoir économique ?
Pouvoir économique.
Et qu'est-ce que ça nous dit de ce que c'est que la France ?
Ça nous raconte cette histoire. Souvent en France, on a tendance à regarder l'esclavage du point de vue des États-Unis. Mais ça s'est passé en Guyane, ça s'est passé en Martinique, ça s'est passé en Guadeloupe, ça s'est passé en Comores, ça s'est passé au Nouvelle-Calédonie, ça s'est passé à La Réunion, ça s'est passé à l'époque où la France est un royaume, ensuite un empire.
Témoigner de ça, c'est un enjeu pour vous ?
C'est même pas un enjeu, c'est ce que je porte. C'est-à-dire, ce sera plus un enjeu quand la différence sera plus un problème.
C'est la musique d'un chanteur français que vous avez souhaité nous faire entendre ce matin, Kazé.
J'allais pour nous parler parce que vous nous parlez.
Jacob Desvarieux et son groupe Cassav en 2019, lors de leur dernière tournée. Jacob Desvarieux qui s'est éteint en juillet dernier, cette voix, qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'entendez?
Ça, c'est toute l'enfance qui remonte. Mais vraiment tout. C'est-à-dire que vraiment chez moi, Cassav, je pense pour moi et pour la diaspora afro-antillaise en général, Cassav c'est énorme. Et pour la société française, même si elle l'ignore, c'est le plus grand groupe français.
Le plus grand ?
Ouais, le plus grand. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont rempli le plus de stades de France, le plus de Zénith, le plus. Voilà, c'est eux qui détiennent tous les records en France.
Vous êtes allé les voir ?
Plein de fois. c'est de fait, on n'a pas le choix. Quand on est antillais, on va voir Cassav.
Et qu'est-ce que vous retenez justement de ces expériences musicales qu'étaient les concerts de Cassav ?
C'est grandiose. C'est vraiment tout le monde saute, tout le monde chante, tout le monde danse. Ça dure 3-4 heures. Cassav, c'est de grandes messes.
C'est une messe en créole.
En créole, et c'est ça qui est important.
Pourquoi ?
Parce que ce que j'ai aimé chez Cassav, c'est qu'ils sont arrivés comme ils étaient. Et il y a plein d'artistes antillais qui, pour se conformer au marché français, ont tenté l'expérience en français. Et eux, ont voulu rester eux-mêmes et parler de leur histoire dans leur langue.
Le zouk de Cassav, Kazé, d'un point de vue musical, qu'est-ce qu'il caractérise ?
Déjà, le zouk de Cassav, déjà, faut juste savoir que Cassav a inventé le zouk. Si on fait du zouk en Angola, si on fait du zouk, je sais pas, j'ai entendu du zouk une fois, du zouk roumain. Si on fait, exactement, si on fait du zouk au Cap-Vert, si on fait du zouk en Amérique du Sud, c'est parce que Jacob Desvarieux et Pierre-Édouard Décimus ont inventé le zouk.
Et cette musique, elle reposait sur quoi?
Un mélange de toutes les musiques traditionnelles, à savoir le bélé, le groka, la biguine, toutes les musiques traditionnelles qui existent aux Antilles, et puis des musiques modernes, c'est-à-dire que je pense qu'ils se sont inspirés de la funk, du rock. Je trouve que ça résume assez bien la Caraïbe, puisque la Caraïbe, c'est un mélange.
Mais c'est ça.
Nous sommes un mélange de trois continents.
Vous dites parfois que cette musique, Kazé, elle a changé votre vie.
Kassav et ce que représente l'histoire de Kassav fait vraiment partie de ma vie. Ouais.
Et puis c'est aussi un groupe qui donne une autre image des Antilles, une image très loin de celle portée par un groupe comme la Compagnie Créole par exemple.
Ouais, mais la Compagnie Créole, on sait bien que c'est un groupe qui a été fait de toutes pièces. Enfin, le producteur, je crois que l'un des producteurs de la Compagnie Créole est l'un des parents d'un des Daft Punk. Voilà, la Compagnie Créole est un groupe monté du doudouiste, monté de toutes pièces pour plaire au marché français. S'il y a bien des gens qui n'écoutent pas la Compagnie Créole, ce sont les Antillais.
Diriez-vous que cette musique, le zouk, c'est une musique qui vous a aussi autorisé à rêver, Kazé?
Je ne sais pas si j'ai rêvé avec le zouk, mais par contre, le zouk m'a appris plein de choses. Par exemple, chez moi, je n'ai pas l'impression qu'on m'ait parlé d'où je venais et quel était notre héritage. Et j'ai l'impression que c'est en entendant de la musique tout le temps à la maison que j'ai compris qu'on était des descendants d'esclaves, parce qu'on n'a jamais eu cette conversation à la maison.
Et ce sont des histoires qui sont dites justement dans cette musique.
Exactement, parce que je sais que le zouk, c'est une musique très entraînante et que tout le monde a l'impression que c'est juste une musique lascive. Mais Kassav, notamment dans les premiers albums, racontait beaucoup d'histoires des Antilles, à savoir l'esclavage, ensuite la colonisation et après les histoires d'immigration, comment les Antillais ici vivent, leur mal de vivre, leur nostalgie. Voilà, Kassav a raconté tout ça.
C'est intéressant que vous parliez de cette perception de cette musique comme d'une musique lascive, parce que ça, c'est un cliché exotique, là aussi, qu'on impose, un cliché qui a une histoire.
En tout cas, entre les afro-descendants et peut-être certains occidentaux, on a un rapport au corps complètement différent. C'est-à-dire que ici, bouger les reins, c'est sexuel. Chez nous, c'est la base.
Quand vous l'avez vécu, ça? Ces conflits d'interprétation, en fait, est-ce que c'est ça que vous
racontez? Non, le conflit d'interprétation, ça peut être fatigant des fois, d'être dans une position où il faut soit expliquer ou soit faire un espèce de rapport sociologique de ce qu'on est, d'où on vient, de pourquoi on parle, de la manière dont on parle, pourquoi on réagit, pourquoi on danse comme on danse. Voilà, ça peut être fatigant d'expliquer des choses.
Quelle petite fille est-ce que vous étiez, Kazé?
Moi, j'écoutais de la musique, je faisais des roues arrière en vélo, je jouais au foot... Je me traînais par terre, je rentrais plein de boue. Voilà, je pense que j'étais ça. J'étais agité dehors et plutôt timide à la maison.
Et vous rêviez de quoi?
Je rêvais surtout de pas aller à l'école, je pense. Je pense que ça a été d'un de mes premiers rêves de squeezer l'école pour pouvoir continuer à jouer, en fait.
Et comment ça s'est passé avec l'école, justement? Avec cette institution?
Bah, ça s'est passé, je pense, mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire qu'il y a des matières que j'aimais bien. Je bossais dans les matières qui m'intéressaient. J'avais cette attitude un peu, je pense, un peu prétentieuse, qui consistait à prendre juste les matières qui m'intéressaient et à zapper le reste. À savoir, je pense que les maths dès le CM2, j'ai laissé tomber.
Et aujourd'hui, puisqu'on parlait de rêve, à quoi est-ce que vous rêvez?
Des trucs très simples. Sérénité, tranquillité. Ce genre de choses, très simple.
C'est un texte qui s'appelle Rêve illimité, que vous avez choisi de nous lire, nous dire ce matin, Kazé. Pourquoi rêve illimité?
Parce que faut rêver sans limite. Voilà, il n'y a pas de raison, c'est un rêve. Donc il n'y a pas à se limiter, on peut rêver de voler. Je trouve que quitte à rêver, autant rêver l'impossible en fait.
Peut-être que tout est possible ici.
Apparemment, oui.
Et ben alors on va le faire.
Ok.
Enfin, je vous écoute. On vous écoute tous, les auditrices et les auditeurs de Boomerang. Kazé, rêve illimité, c'est parti.
Être de chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent, mes premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant, je rêvasse, je dessine, passe à la piscine l'été, le reste du temps sur place je prends racine, du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent, je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens, locataire d'une cité où les tours sont austères, mon histoire c'est d'y être noir donc minoritaire, hébété par les débilités, éclaté les déblatères et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. Arrêtez la routine, remettez la bobine et évitez de laisser le bitume irriter les rétines. Cessez de bousculer l'exclu à la gueule masculine, mes origines et mon air androgyne, je ne sais pas faire sans. Et le temps ne va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter, même si longtemps j'ai été hanté et tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et je suis dissipé, mal dans ma peau. Je fais les 100 pas, mais ne sais pas où trouver mon drapeau. Comme très tôt, trempé par la bave du crapaud, je me sens dupé, trompé par le reste du troupeau. J'ai fripé la copie, où est frappé l'épopée. Des impies accros à l'utopie qu'on a estropié. Et j'ai pillé avec dépit ce pays développé où sans répit on doit palper pour payer ses impôts. Et la peur du faux départ demeure mon repère dans les remparts et sous les regards des langues de vipères. Le manque de victoire forge mon caractère. Mon territoire ne va nulle part, normal, je me perds. Marre du crépit, je voudrais m'échapper, grimper sur le tapis volant qui saura m'attraper. Flipper de participer à leur grand souper. Je veux juste m'occuper de frapper mon propre tempo. Mais le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et encore aujourd'hui, bien que j'ai grandi, j'ai su garder un esprit de gosse attardé. Je ne pense qu'à les arder du lundi au samedi. Et les vieilles putes que ça peut emmerder peuvent me regarder. Je m'en tape des ondits, des comptes rendus idiots que ces maudits aiment faire dans mon dos pour me saborder. J'ai horreur du temps perdu à porter un fardeau avant d'attendre ce fameux repos qu'on va m'accorder. Et je n'aime que ma plume, idem pour mes rimes quand sur mon barème, c'est le mot haine qui s'imprime. C'est mon sérum qui supprime la rue ses problèmes quand son programme ne me vend que drame et déprime. Vivre l'âme vidée, le crâne téléguidé par la thune avant de quitter l'antenne en panne irritée n'est pas dans ma nature. Laissez-moi décider de ma trajectoire et simplement faire à mon idée.
Le flow de Kazeh ce matin dans Boomerang. Quand vous écrivez, Kazeh, tout est possible.
Oui, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui freine ou qui empêche.
Est-ce que ce serait pas ça, justement, écrire, c'est faire sauter toutes ces barrières dont on a parlé tout au long de cette émission?
Oui, je pense. Je pense que ça sert à ça. En tout cas, ça sert à communiquer avec autrui. Et pourquoi pas à communiquer le fait qu'il n'y a pas d'empêchement.
Vous avez toujours su que l'écriture permettait ça?
Non, pas toujours. Quand on nous fait faire des rédactions ou des dictées à l'école, non, c'est pas là qu'on apprend que tout est possible. Non. À la limite, j'ai plus appris ça avec le rap.
Et alors, c'est ça, comment est-ce que c'est apparu, en fait? Où est-ce que vous l'avez trouvé pour la première fois, cette grande liberté qui vous a donné envie?
À l'adolescence, en essayant, et puis à force d'essayer et de faire, on se rend compte que c'est libre, en fait. C'est un exercice de style complètement libre, et qu'on peut être qui on veut, et on peut dire ce qu'on veut, au moment où on le veut. Voilà, et c'est le rap qui me l'a appris, c'est vraiment pas à l'école, quoi.
Merci.
Je vous en prie.
Pour cette liberté ce matin, Kazeh, merci d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci aussi à Vincent Godard à la prise de son ce matin. Je rappelle, Kazeh, que vous êtes actuellement en tournée avec votre groupe House Gang et qu'on vous retrouvera notamment le 25 novembre au festival Les Femmes s'en mêlent au Centre Georges Pompidou, mais aussi dans toute la France, d'Angoulême à Cannes, en passant par Bron, Évreux ou encore Maubec. Tout de suite, c'est l'heure des médias. Sonia De Villers, ça va, Sonia?
Oui, ça va, Augustin. Bon, voilà, on retrouve Boomerang demain matin. Salut, Augustin.